J'allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Elle est le symbole du premier traité européen de protection de la vie sauvage et des habitats naturels. La loutre, ce carnivore semi-aquatique, fait son grand retour sur le territoire français. Et pourtant, l'animal le plus kawaii de nos rivières revient de très très loin, puisque l'espèce avait quasiment disparu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Chassée pour sa fourrure, persécutée par les pêcheurs et les piscicultures qui voyaient en elle une voisine un peu trop vorace, impactée par la dégradation de ses habitats naturels, la loutre a peu à peu dépéri. Il faudra attendre 1972 pour qu'elle soit interdite à la chasse et 1981 pour que la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage fasse évoluer son statut de nuisible à espèce protégée. Entre 2000 et 2004, elle bénéficie d'un premier plan de restauration qui pose les bases des principales mesures à mettre en place pour favoriser son retour. Puis, entre 2010 et 2015, un plan d'action national est déclenché pour assurer la conservation à long terme de l'espèce, suivi d'un deuxième plan, toujours en cours aujourd'hui et jusqu'en 2028. Alors ces mesures, elles payent, puisque les loutres sont présentes aujourd'hui sur les trois quarts du pays à peu près, y compris sur les berges du Lez, pardon. Alors n'imaginez pas la voir au détour de votre balade dominicale, ça n'arrivera pas, il y a peu de chance en tout cas, l'animal est bien trop discret. Mais peut-être qu'en vous promenant dimanche prochain, c'est elle qui vous observera, bien tapie dans son abri, et rien que ça, eh ben, ça transforme profondément le regard qu'on porte sur le milieu dans lequel on évolue. Les bonnes nouvelles n'étant pas si fréquentes, on a souhaité en savoir plus, et pour cela, nous recevons Simon Lacombe, il est doctorant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, il a suivi, quel chanceux, l'installation de cet animal fascinant sur les berges du Lez. Il nous en dira plus, donc sur son régime alimentaire, sa période d'activité, ses interactions interspécifiques et même ses origines géographiques. Nous sommes enchantés, et vraiment, je le dis, enchantés de l'accueillir dans Allume la science pour nous en parler. Simon Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Je suis jalouse, je pense que ça se sent beaucoup. Elle est so cute avec ses grands yeux mouillés et sa moustache frétillante avec moi pour mener cette interview à l'Imperio.
T'es jalouse aussi. Hein.
Bonjour Aline.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
En seconde partie d'émission, je vous propose d'aller vous promener au Jardin des Plantes avec John DeVos, son directeur. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56...
Simon Lacombe, donc on a lu attentivement votre publication qu'on mettra d'ailleurs en lien toujours dans l'article, et dans cette introduction, pardon, vous délivrez une information qui interpelle: les cours d'eau abritent un tiers des vertébrés. On n'a pas l'impression, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, pardon, de ces écosystèmes qui mobilisent beaucoup moins que les océans, par exemple. Alors, dans quel état y sont les cours d'eau en France ?
C'est une vaste question, parce qu'il y a beaucoup de compartiments à ça, beaucoup de réponses qu'on peut apporter en termes de composition en espèces. C'est vrai qu'on a des cours d'eau avec un peu moins de biomasse par endroit, avec beaucoup d'espèces invasives dans d'autres endroits, etc. Après, si on regarde la qualité physico-chimique, on peut quand même dire que ça s'est grandement amélioré depuis les années 60-70. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour réguler un peu les rejets qu'on a de stations d'épuration, par exemple les rejets urbains, les rejets agricoles aussi. Donc sur ce plan-là, on a une qualité des cours d'eau qui s'est quand même grandement améliorée. Et sur le plan de la naturalité, on peut dire, on a quand même des mesures qui ont été entreprises de manière assez locale, et ça dépend beaucoup des endroits dans lesquels on se place, mais on a des mesures qui ont été prises pour restaurer quand même des corridors fonctionnels autour des rivières, avec des berges plus boisées dans beaucoup d'endroits.
Alors c'est dans ce contexte un peu d'amélioration de l'état des cours d'eau que vous êtes intéressé, vous, à la loutre d'Europe, Loutra loutra. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, comment elle vit, à quelle famille elle appartient, qu'est-ce qu'elle mange, qui est-elle, cette loutre ?
Alors la loutre d'Europe, c'est un mustélidé, donc au même titre que les blaireaux, les putois, les fouines par exemple. Et c'est une espèce qui est très généraliste. Si je devais utiliser un mot pour la décrire, ça serait celui-là. En fait, on va la trouver dans beaucoup d'habitats dès lors qu'il y a de l'eau douce. Elle a besoin d'eau douce pour se nettoyer, pour nettoyer sa fourrure, pour la maintenir imperméable. Mais à part ça, elle peut chasser un peu n'importe où dès lors qu'il y a de l'eau. Donc en eau douce comme en eau salée. Donc on la trouve dans des habitats côtiers, on la trouve dans des zones de marais, des zones d'étang, on la trouve dans des rivières de plaine ou dans des rivières en amont de bassins versants qui sont plus torrentielles, plus oxygénées. Voilà. Et avec ce côté généraliste, elle a aussi un régime alimentaire qui est très varié, qui va globalement refléter les proies qu'on trouve dans le milieu qu'elle habite. Donc c'est principalement des poissons et des petits crustacés, donc typiquement des écrevisses. Ça peut être aussi, selon la saison, des amphibiens. Elle va manger beaucoup de grenouilles et de crapauds pendant leur période de reproduction. Et ça peut être aussi, plus occasionnellement, des petits mammifères et des petits oiseaux.
Ça fait quelle taille une loutre, pour se faire une idée?
Ça fait, on peut dire, 1m20 en comptant la queue, à peu près.
Alors, on va parler du Lèze. Donc, on peut rappeler qu'il fait 29,6 km, qui prend sa source à Saint-Clément-de-Rivière. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de son état de santé général? C'est une bonne nouvelle que la loutre, elle soit revenue?
Oui, c'est toujours une bonne nouvelle. Pour ce qui est du Lèze, c'est un cours d'eau, comme vous l'avez dit, qui est assez court et qui est principalement, enfin, qui court dans la métropole de Montpellier, donc des habitats principalement urbains. Et de fait de ça, c'est un cours d'eau qui, sur tout son cours, traverse des habitats urbains, en fait. Malgré ça, on a quand même un cours d'eau qui a fait l'objet de mesures de restauration de l'habitat, qui est un habitat qui est assez... En assez bonne santé. On a notamment des zones protégées comme des zones Natura 2000 sur toute la partie amont. Donc c'est un cours d'eau qui est intéressant parce qu'il va quand même connecter des habitats très urbains, très anthropisés, avec beaucoup de perturbations humaines, avec des habitats qui sont quand même relativement naturels, avec un cours qui est au moins sur toute la partie amont assez boisé.
Est-ce qu'on peut dire de la loutre que c'est une espèce sentinelle ou est-ce que ça se nuance un peu?
Ça, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit. Nous, c'est quand même un propos qu'on essaye de nuancer parce que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est une espèce qui est très généraliste. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'elle est capable d'être dans beaucoup d'endroits, y compris des habitats très perturbés. Par contre, on n'a pas d'idée, cela dit, sur sa capacité à se reproduire, à avoir des descendants fertiles dans ces endroits-là, etc. Donc peut-être qu'elle va effectivement être affectée par la qualité de l'eau, mais c'est des informations qu'on n'a pas. En tout cas, on sait qu'elle peut être présente partout, y compris dans des milieux très, très perturbés. En fait, ce qui joue, c'est plutôt le fait qu'elle soit laissée tranquille, qu'elle ne soit plus chassée, et c'est principalement pour ça qu'elle revient.
Alors, votre recherche, elle s'est appuyée sur une collaboration étroite entre partenaires académiques et non académiques, tous engagés dans la conservation de la loutre. Avec quel partenaire vous avez travaillé?
On a travaillé sur le Lèze avec la ville et la métropole de Montpellier et avec l'EPTB du Lèze, donc c'est un établissement public territorial de bassin versant. C'est particulièrement, ce genre de partenariat est particulièrement précieux parce que c'est des acteurs et actrices qui nous apportent une connaissance du terrain qu'on n'aurait pas par nous-mêmes, en fait. Donc sur le choix des sites, sur la mise en relation avec les propriétaires, par exemple, lorsqu'on doit aller sur des terrains privés, etc., si on n'avait pas l'aide de l'EPTB et de la ville, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà. Et puis, ils nous apportent une connaissance quand même des enjeux locaux qui est très précieuse.
Et vous dites aussi que le Lèze, justement, on parle de terrain, et que c'est un terrain idéal pour cette étude. Pourquoi spécifiquement le Lèze?
Je dirais que c'est en grande partie par sa proximité avec la ville. Ça nous permet de montrer, en fait, qu'à proximité immédiate des habitations, potentiellement de cours d'école, on a travaillé sur une cour d'école en centre-ville de Montpellier, à proximité immédiate, on a la présence d'une faune, d'une biodiversité qui n'est pas suspectée, en fait.
Alors, pour réaliser cette étude, justement, vous avez utilisé ce qu'on appelle des méthodes d'échantillonnage non invasives. Donc, la recherche d'indices, le piège photographique et l'ADN environnemental. On va commencer par la recherche d'indices. Vous parlez des épreintes. Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est caractéristique?
Alors, les épreintes, c'est le nom qu'on donne aux crottes de la loutre. Il faut savoir que la loutre, c'est un animal qui est territorial. Elle occupe des territoires qui peuvent être très grands. Ça peut aller jusqu'à 40 km pour un mâle dans certains endroits. Et donc, elle va avoir tendance à marquer son territoire de manière assez intensive avec ses épreintes. Donc, on peut trouver beaucoup d'épreintes, en fait, sur les territoires des loutres. Et elles vont également marquer dans des endroits assez stéréotypés. Ça va être des petites souches qui émergent de l'eau ou des rochers sur les berges, des choses comme ça. Ce qui fait que pour des observateurs et observatrices qui ont l'habitude de l'espèce, c'est relativement facile de trouver des épreintes dans les endroits où la loutre est présente. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, son suivi en France et ailleurs en Europe a principalement été basée sur la recherche de ces crottes, de ces empreintes.
Et elles ressemblent à quoi ? Alors pourquoi on dit qu'elles sont pas confondables avec d'autres
Oui, c'est des excréments qui sont très caractéristiques. On va trouver énormément de résidus de ce qu'elles mangent, donc beaucoup d'arêtes de poissons ou d'écailles de poissons, beaucoup également de morceaux de carapace d'écrevisse. On peut trouver de manière très claire des morceaux de pinces d'écrevisse. Et à côté de ça, elle va sécréter aussi une sorte d'huile qu'elle utilise pour marquer de manière olfactive, hein, c'est un signal de communication. Et ça a une odeur qui est très très caractéristique. Certaines personnes en parlent comme une odeur proche du miel ou un truc un peu ou quelque chose d'un peu boisé, du jasmin, des fois on entend. Voilà.
Alors, en complément de cette méthode, vous avez utilisé, on l'a dit, les pièges photographiques. Vous en avez disposé combien et comment vous avez choisi où les mettre ?
Sur le lait, on en a disposé une vingtaine, donc qui étaient là jusqu'à janvier 2024. Et alors, pour les endroits, donc en fait, on a quand même essayé d'échantillonner des sites particuliers. Donc, et par un site, on définissait des sections de cours d'eau de 600 mètres. Ça, c'est basé sur le protocole recommandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un protocole de recherche d'empreintes, de recherche de crottes. Donc, pour trouver des crottes, il faut pouvoir pratiquer, prospecter le cours d'eau sur 600 mètres. On a cherché à mettre les pièges photos à proximité immédiate de nos sites de recherche d'empreintes pour pouvoir un peu comparer les résultats qu'on obtenait. Donc ça nous a déjà beaucoup contraints parce qu'il fallait que le cours d'eau soit accessible et prospectable sur 600 mètres. Et ensuite, une fois qu'on avait localisé ces endroits-là, donc pour ça on l'a beaucoup fait à l'aide de l'EPTB qui a une bonne connaissance du lait, on a placé nos pièges photos dans des micro-habitats, c'est-à-dire des endroits à très fine échelle, sur lesquels on suspectait que la loutre pouvait passer. Donc ça nécessite de bien connaître l'écologie et le comportement de l'espèce. Donc typiquement, on allait chercher des endroits dans lesquels il y avait une sorte de goulot qui empêchait la loutre de passer, que ce soit une chute d'eau un peu plus prononcée ou un endroit où la rivière n'est pas forcément adaptée et où elle va plutôt passer sur les berges. Et dans ces cas-là, on visait les petits sentiers sur lesquels elle pouvait être amenée à passer.
Et dans ce que vous avez observé justement quand vous avez regardé les pièges photos, est-ce qu'il y avait au-delà des endroits, des moments de la journée où la loutre était plus présente que d'autres ?
Oui, sur le lait, on a quand même un signal très clair qui est que l'espèce est strictement nocturne. On la voyait globalement entre 22h et 6h du matin. C'est pas le cas partout. Nous, on a également été poser des pièges photos sur le Vidourle, donc plus à l'est, à la frontière avec le Gard. Et ici, on avait des observations qui étaient faites de jour. Donc, on pense que la loutre n'était pas à l'origine un animal nocturne, mais qu'avec les dérangements humains, elle a cherché à partitionner son activité pour être plus active dans des moments où nous, on ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'elle est nocturne à proximité des endroits plus peuplés.
Et sur elle dort où, pardon.
Ah, pardon.
Elle dort où, la loutre
Alors, ça dépend beaucoup de si elle est suitée, c'est-à-dire si elle a des petits avec elle. Lorsqu'elle a ses petits, elle va chercher à dormir dans des endroits où ses petits sont protégés. Donc souvent, c'est dans des petites tanières sous des rochers ou sous des racines, dans des endroits où elle est abritée. Lorsqu'elle a pas ses petits, elle va quand même chercher, dans les moments où elle se sent pas particulièrement en sécurité, donc à proximité des habitats humains, à avoir des abris comme ça. Mais dans des endroits plus isolés, ça peut être, elle peut dormir à même le sol, au pied d'un arbre ou des choses comme ça. Une chose qu'on sait, c'est qu'elle utilise beaucoup de sites de repos différents sur une même journée. Quand elle a passé petit.
Et alors, au-delà des loutres, quand vous avez regardé les photos des pièges, vous avez vu beaucoup d'autres animaux. On a vu des sangliers, des genettes, des renards, des fouines, des ragondins. Et est-ce que vous avez observé des interactions entre la loutre et toutes ces autres espèces qui sont au même endroit ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'espèces. Alors, rien qu'on ne s'attendait pas particulièrement à observer. Alors, on a éventuellement été un peu surpris de voir autant de genettes à proximité directe de Montpellier. On a fait des observations de genettes, y compris dans des endroits très urbanisés. Pour ce qui est des interactions, ouais, on peut mentionner une observation assez intéressante qu'on ne soupçonnait pas du tout, c'est qu'on a vu à un endroit une loutre chasser un renard. Donc c'était probablement parce que la loutre cherchait à défendre son territoire et qu'elle est tombée sur ce renard en intrusion dans son territoire, et donc elle a cherché à le chasser. Ouais. C'était une observation intéressante.
Et elle a réussi à le chasser ?
A priori, oui, on a que 10 secondes de vidéo, mais le renard semblait pas très fier d'être là. Quoi.
Vous en avez vu en visuel, vous ?
Oui, j'en ai vu une fois ou deux sur la Mondulaise.
Elle est jalouse.
Une fois ou deux, ça me laisse peu de possibilités d'en voir une en allant me promener le dimanche quand même. Alors, la troisième méthode, c'est l'ADN environnemental. Alors, on en a déjà parlé, mais davantage sur des études en milieu marin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'ADN environnemental ?
L'ADN environnemental, c'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes très bien parce qu'on a traversé 5 années assez difficiles de Covid. Donc, c'est ce qu'on appelle des PCR. Pour des réactions de polymérisation en chaîne, on va chercher en fait dans un milieu particulier de l'ADN qu'on va essayer de rattacher à une espèce. Donc ça peut être aller chercher de l'ADN de Covid dans des échantillons prélevés chez des gens, ou alors ça peut être d'aller chercher de l'ADN de loutre dans des échantillons d'eau. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé une approche qui s'appelle métabarcoding parce qu'on ne va pas chercher uniquement une seule espèce, ici la loutre, mais qu'on va justement chercher de l'ADN de beaucoup d'espèces et aller dresser en une sorte de panorama en fait, de ce qui est présent dans nos échantillons d'eau.
Alors vous avez repéré 2 individus, c'est ça ?
Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a... C'est pas une information qu'on peut avoir à partir des échantillons d'eau. On a de l'ADN qui est trop dégradé en fait, donc on peut aller jusqu'à l'espèce mais difficilement jusqu'à l'individu. On a aussi prélevé des empreintes qu'on a envoyées dans un laboratoire, c'est des partenaires qui sont à l'université de Liège en Belgique, et eux ils ont pu, à partir de ces échantillons d'empreintes, dans lesquels l'ADN est beaucoup moins dégradé, aller jusqu'à identifier les individus. Nous on a identifié 2 individus sur le Lez, après c'était à partir d'assez peu d'empreintes collectées, donc on n'est pas du tout sûr d'avoir capté l'ensemble des individus. C'est même plutôt probablement l'inverse.
Alors, vous avez également souhaité, donc à partir de ces empreintes et de l'ADN, surtout les empreintes j'imagine, souhaiter savoir d'où elles venaient, ces loutres. Alors elles viennent d'où ?
Oui, ça c'est fait par nos mêmes partenaires à l'université de Liège. Dans l'ADN qui est présent dans les empreintes, qui est peu dégradé, on peut trouver des endroits dans le génome dans lesquels il y a une assez grande variabilité. Et à partir de la variabilité à ces endroits-là, on peut estimer une espèce de distance entre des individus. Et des individus qui sont proches par leur génome vont être plutôt issus de populations qui sont proches. Et on peut trouver aussi des différences très abruptes entre des échantillons qui montrent qu'elles sont issues de populations complètement différentes. Donc en France, globalement, on a 4 populations en Bretagne, sur la façade atlantique, plutôt dans les Landes, dans le Massif central, et une population plutôt pyrénéenne qui vient probablement d'Espagne. Donc même si aujourd'hui toutes ces populations sont sont connectées géographiquement, on a quand même une différenciation qui est marquée dans le génome qui provient en fait de presque un demi-siècle de séparation entre ces populations. Pour ce qui est du Lez, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est issu de 2 populations très différentes. On a des individus qui sont plus proches des individus qu'on avait récemment sur la vallée du Rhône et des individus qui sont plus proches des populations du Massif central. Donc ce que ça suggère, c'est qu'on a des individus qui peuvent coloniser depuis le Massif central, depuis les Cévennes par l'amont de nos rivières, et qu'on a aussi des individus qui colonisent plutôt par l'embouchure du Rhône via les étangs littoraux. Donc on serait potentiellement sur une zone un peu une sorte de carrefour génétique dans l'Hérault.
Alors cette technique de métabarcoding que vous avez utilisée pour savoir d'où venaient les loutres, vous l'avez aussi utilisée pour en apprendre plus sur leur régime alimentaire. Qu'est-ce qu'elles ont mangé, ces loutres du Lez ?
Alors, encore une fois, on a trouvé des résultats qui étaient en accord avec ce qu'on savait sur l'espèce. On sait qu'elle a tendance à manger ce qui est présent à proximité. Et effectivement, dans les échantillons, en faisant du métabarcoding sur les crottes, on a trouvé qu'elle consommait les choses similaires à ce qui était présent dans les échantillons d'eau. Donc c'est plutôt des poissons et des écrevisses selon la saison.
Et alors justement, ces écrevisses, il y avait beaucoup d'écrevisses américaines qui sont des espèces invasives. Est-ce que le fait que les loutres mangent ces espèces invasives, ça pourrait en aider à restaurer un peu ces écosystèmes locaux dans leurs états originels ?
C'est difficile à dire, et dans les faits, ça serait très difficile de mettre ça en évidence. À l'heure actuelle, on n'a pas d'informations qui nous permettent d'aller dans ce sens-là. C'est certain que les loutres en consomment beaucoup, elles peuvent en consommer beaucoup, effectivement. Une autre hypothèse qui est dans ce registre-là, et moi que je trouve très intéressante, ça serait que potentiellement la présence de ces écrevisses invasives aurait à l'inverse permis à la loutre de revenir, ou en tout cas favoriser le retour de la loutre qui était permis par d'autres facteurs également. C'est pareil, c'est difficile de mettre ça en évidence, donc à l'heure actuelle c'est que des hypothèses, mais peut-être qu'on aura plus de pistes là-dessus plus tard.
Alors toutes ces méthodes, elles vous ont également permis de mieux comprendre la distribution de la loutre sur le Lez. Donc vous avez dit qu'il y a une partie très anthropisée, une partie qui l'est beaucoup moins. Est-ce qu'elle se cantonne à cette partie-là ou est-ce qu'elle voyage ?
On sait que la loutre est présente sur tout le cours du Lez, de la source à l'embouchure. On ne sait pas dans quelle mesure elle utilise ses habitats différemment. De toutes les observations qu'on a pu faire, il semblerait qu'elle puisse utiliser la partie amont plus boisée et la partie aval des étangs littoraux pour se nourrir, se reposer, etc. Par contre, toute la partie urbaine qui passe dans Montpellier, a priori, on n'a pas trouvé de site de nourrissage ni de site de repos. En revanche, on sait que la loutre passe. On le sait parce que, justement, on a identifié des individus à partir d'épreintes et ça nous a permis de savoir que des mêmes individus étaient présents à la fois en aval et en amont sur des périodes de temps très courtes. Donc elles sont obligées de passer par Montpellier. Oui, c'est ça, de transiter par Montpellier. Nous, on a fait des observations très, très régulières au piège photo autour de l'hôtel de région vers la place de l'Europe. Donc on sait que la loutre passe. Mais par contre, on n'a pas de raison de penser qu'elle s'attarde particulièrement.
Vous parlez de la trame turquoise, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors la trame turquoise, ça, c'est issu d'initiatives qui s'appellent la trame verte et la trame bleue, qui visent à conserver des corridors écologiques continus pour permettre aux animaux de se déplacer et de relier les différents habitats pour éviter en fait, d'avoir un morcellement des populations qui conduirait à une perte de diversité génétique, ce qui est très néfaste pour les populations. Donc à l'origine, on parlait de trame verte pour maintenir des habitats plutôt de bosquets, de forêts, et de trame bleue pour les habitats d'eau douce. Donc l'idée, c'était de maintenir une continuité écologique pour les poissons d'eau douce, les choses comme ça. Maintenant, on s'est rendu compte de deux choses, qu'on a des espèces semi-aquatiques comme la loutre qui ont besoin d'avoir une continuité maintenue à la fois sur les habitats terrestres et sur les habitats aquatiques. Et on a aussi réalisé que beaucoup d'espèces qu'on considérait comme étant vraiment inféodées aux habitats terrestres, c'est le cas du renard par exemple, en fait utilisent beaucoup les rivières comme des corridors de déplacement. Ils se déplacent beaucoup le long des berges. Ils ont besoin d'avoir un accès assez soutenu aux rivières. Donc ça justifie en fait le fait de parler de trame turquoise, qui est l'idée d'aller fusionner ces deux trames, la trame verte et la trame bleue, pour maintenir des habitats continus, à la fois en termes d'habitat terrestre et d'habitat d'eau douce.
Alors, on parle là d'une dynamique de recolonisation soutenue, mais que vous nuancez quand même, parce que la loutre, elle reste particulièrement vulnérable, donc notamment, comme vous l'avez dit, à la fragmentation de son habitat terrestre ou aquatique. Mais qu'est-ce qui la menace exactement, cette loutre ?
Alors, la première cause de mortalité connue, c'est les collisions routières. Il faut savoir que la loutre, elle a des grands territoires, et donc elle est présente sur les cours d'eau quand même en faible densité. Et donc, si on perd un ou deux individus, parce qu'on a eu une période qui est particulièrement pluvieuse, ce qui est associé à des risques de collision plus élevés.
Bah, si
on
perd, c'est juste quelle association on fait entre le fait qu'il ait beaucoup plu et qu'on écrase plus de loutres.
Ça reste des hypothèses, il y en a beaucoup. Les hypothèses privilégiées, c'est que la loutre est très curieuse. Et en fait, quand elle voit de l'eau arriver de quelque part, elle va avoir envie d'aller explorer pour regarder si potentiellement il n'y a pas des nouveaux habitats. S'il n'y a pas des poissons, là d'où viennent cette eau, etc. Donc elle va sortir des cours d'eau quand elle voit de l'eau ruisseler en provenance des routes ou que sais-je. L'autre chose, c'est que la loutre a quand même tendance à éviter de passer dans des sortes de goulots d'étranglement. Donc quand il y a des ponts sous la route, elle va avoir tendance à les éviter pour sortir de l'eau. Et ça, c'est d'autant plus important quand le débit est élevé. Donc quand il y a un débit élevé, elle va plus souvent sortir de l'eau pour traverser par les routes.
Et comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter les collisions entre les loutres et les voitures ? On y vient.
Tu rigoles d'avance.
On peut aménager les croisements, notamment route rivière, en construisant des passages à loutres, donc des loutroducs, qui permettent aux loutres de traverser en sécurité sous le pont ou à proximité du pont. Dans une étude récente qu'on est en train de publier dans le Journal of Applied Ecology, on montre que le fait d'utiliser des méthodes un peu à la pointe de modélisation en écologie statistique, avec beaucoup de données de collisions routières qui ont été remontées par un réseau de naturalistes bénévoles qui ont systématiquement fait remonter ces données de collisions, ça nous permet de cibler des zones dans lesquelles la conservation est la plus importante. Et donc on montre qu'en protégeant moins d'1% du réseau routier, on peut arriver à réduire la mortalité de plus de 70%.
Alors le temps est passé très vite, bien plus vite que je ne l'avais cru. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même du projet Havre de Paix
Alors vous l'avez mentionné en introduction, la loutre elle fait l'objet d'un plan national d'action en France. Et une des mesures prises par ce plan national d'action, c'est de fournir des habitats prospères pour la loutre, pour qu'elle puisse se nourrir et se reproduire de manière tranquillement. Et dans le cadre de cette mesure, il existe la mesure des havres de paix pour la loutre, qui consiste à permettre à des personnes qui ont un terrain qui est voisin d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, d'aménager ce qu'on appelle un havre de paix. dans lequel ils s'engagent à fournir des habitats qui sont propices à la présence de la loutre, et ce de manière peu dérangée. Donc ça passe par une convention entre ces acteurs qui sont soit des particuliers, soit des municipalités, ça peut être des écoles, voilà, qui s'engagent à fournir des habitats propices et sans dérangement.
Donc j'imagine avec une berge arborée, pas de chien, pas de renard,
ouais,
pas
ça.
De chat, pas c'est de... Ça. Ok.
Et ils s'engagent souvent à mettre en place un petit suivi aussi de l'efficacité du havre de paix, soit par des pièges photos, soit en allant régulièrement chercher des empreintes. Voilà.
Super, eh ben, merci beaucoup Simon Lacombe, c'était passionnant et je suis décidément jalouse. Revenez
merci
quand vous voulez, vous avez une publi en préparation je crois.
Oui, je suis en train de travailler sur cette publication, sur les collisions routières et comment ça peut conduire à des plans de gestion et de préservation.
Là, on la suivra attentivement. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc vous avez sans doute profité de cet avant-goût du printemps pour vous promener ce week-end. Mais avez-vous pensé au jardin des plantes ? Depuis le mois de décembre, le portail d'honneur fermé il y a plus de 20 ans s'ouvre à nouveau sur le haut du jardin. L'occasion de redécouvrir ce lieu emblématique, et c'est ce que j'ai fait en compagnie de John DeVos, son directeur. Bonjour John DeVos.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur du Jardin des Plantes et on se trouve devant le nouveau portail qui a réouvert donc en décembre dernier.
Donc ce portail a été construit moitié du 19e, 1841. On reconnaît la patte du 19e, hein, massif, avec un travail de ferronnerie très, très fin. Il ouvre en grand le jardin en venant du Pérou. On était très déçus finalement de devoir le fermer, mais il y avait des problèmes de vétusté qui faisaient qu'il présentait un danger. Donc il a été fermé depuis une vingtaine d'années. Là, il a été entièrement rénové et donc maintenant il est ouvert constamment dès que le jardin est ouvert au public.
Il ouvre une nouvelle perspective sur le jardin des plantes que les Montpelliérains vont pouvoir découvrir. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on voit d'ici ?
La perspective voulue initialement, c'est, une fois qu'on a passé la grille, de voir l'orangerie, un des édifices phares du jardin. C'est ce qu'on peut voir en hiver. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a des arbres qui ont poussé. Et dès que le printemps arrive, ces arbres vont complètement cacher l'orangerie. Donc la perspective est perdue, mais au moins c'est une perspective qui varie au cours de l'année.
Alors je vous propose qu'on rentre un peu dans le jardin. Vous avez pris la suite de Thierry Lavabre-Bertrand en septembre 2024, vous m'avez dit. Quels sont, vous, vos projets pour le jardin ?
D'abord, la continuité de ce qu'a entrepris Thierry Lavabre-Bertrand, c'est-à-dire notamment tout ce qui est patrimonial. Il avait inauguré la Serre Martins, il a fait rénover l'orangerie, vraiment très grands travaux et très appréciés, puisqu'on y a régulièrement des expositions, il y a des événements, tout en gardant son activité de base de l'orangerie, qui est d'abriter des plantes l'hiver pour les mettre à l'abri du gel.
Avec l'école systématique, on avait redécouvert un petit peu une autre dimension du jardin. Comment vous le décririez, le rôle du jardin ?
Alors, le jardin, c'est vraiment une sorte de poupée russe. Il y a plein d'aspects dans ce jardin, ce qui fait d'ailleurs tout le charme du jardin. Donc, il y a bien sûr l'aspect que beaucoup de Montpellier apprécient, celui d'un parc très tranquille, vivant. On entend les oiseaux, les animaux, on voit les plantes. Mais il y a aussi, et c'est vraiment la fonction primaire d'un jardin botanique, hein, et pas seulement un parc, c'est d'abriter une très grande variété de plantes, y compris beaucoup de plantes qui sont des plantes sauvages et non pas des cultivars. C'est pas, s'il y a des rosiers, c'est essentiellement des rosiers sauvages et pas les rosiers qui sont cultivés pour leurs fleurs, etc. Mettre en valeur la diversité des plantes et faire connaître les plantes. Et puis vous avez d'autres aspects comme le côté historique avec presque des aspects romantiques. On peut trouver des fausses arches antiques, on peut trouver des puits anciens, on peut trouver des bustes, etc. qui nous rappellent l'histoire du jardin qui s'inscrit sur plus de 400 ans et qu'on va retrouver avec les différents secteurs. La montagne, par exemple, c'est la première partie qui a été créée par Pierre Richer de Belval. En la montant, on contemple 400 ans d'histoire, d'enseignement de la botanique et de la médecine. Et puis enfin, le dernier aspect, mais pas des moindres, littéraire et poétique, puisque un certain nombre d'auteurs se sont promenés dans le jardin et ont écrit soit des poèmes, soit des extraits dans des livres, ont écrit sur le jardin des plantes de Montpellier.
C'est Paul Valéry qui a un banc là-bas, oui, c'est ça.
Paul Valéry, André Gide et plein d'autres.
Alors vous avez parlé de la montagne, c'est l'allée qui est juste derrière l'orangerie, c'est ça ?
La montagne, c'est lorsqu'on descend l'entrée Henri IV, non pas l'entrée du portail sud. Juste en face, vous avez des escaliers qui montent sur une sorte de pyramide, mais une pyramide qui ne va pas avoir quatre faces qui se retrouvent en pointe, mais une pyramide qui est très allongée et qui va jusqu'à l'intendance. Mais c'est quand même en hauteur. Et quand Pierre Riche de Belval a créé le jardin, il a créé cette montagne. Pourquoi ? C'est pour avoir deux faces, comme sur les montagnes, une face au sud pour abriter les plantes qui aiment le soleil, et une face au nord pour au contraire mettre à l'abri du soleil les plantes qui n'aiment pas trop le soleil.
C'est quoi votre endroit préféré du jardin ? On peut continuer un petit peu. Hein ?
Oui. Peut-être un des endroits que je préfère, c'est justement quand on monte sur la montagne, il y a un arbre qui transpire l'ancienneté, la sagesse, qui est l'arbre au souhait, l'arbre au vœu, parce que c'est un arbre qui a été planté par Pierre Riche de Belval. Ou en tout cas qui est son contemporain, et donc il y a plus de 400 ans, c'est un filaire à large feuille qu'on peut retrouver hein, dans les garrigues derrière Montpellier, mais jamais de cet âge-là. Et là, rien que de le contempler avec toutes ces anfractuosités, tous ces presque on dirait qu'il est couvert de lianes, alors que c'est juste son écorce qui dessine cette architecture, eh bien, on sent cette ancienneté, cette sagesse, comme je le disais. Je ne sais pas si vous souhaitez aller le voir.
Allez. Carrément, c'est tellement agréable de se promener. Hein. Hop, on passe les flaques. Bon, on arrive sur cette fameuse montagne et devant cet arbre, c'est vrai qu'il est incroyable.
On dirait vraiment un personnage, hein, même avec ses bras, les branches sur les côtés, on dirait un personnage, un vieux sorcier mais bienveillant qui nous contemple.
Vous savez ce que deviennent tous les petits papiers ?
Alors parfois je dis en plaisantant que l'équipe du jardin s'ingénie à les résoudre, à les réaliser en pratique pour éviter que l'arbre ne devienne du papier mâché. Régulièrement les jardiniers les enlèvent.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.